CFM Villefranche, le mag.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue si vous venez de nous rejoindre. Le mag, oui, édition de ce lundi 13 décembre. Les lundis, on parle de santé, on parle de bien-être, de mieux-être, et puis un peu d'assiette aussi, de nutrition et d'équilibre alimentaire avec Karine Justeau, chirurgienne, dentiste, coach sportif et parfois historienne, à ce que j'ai cru comprendre.
Et c'est le cas aujourd'hui, figurez-vous.
Et on va le découvrir dans un instant. Juste au passage, deuxième partie d'édition du magazine d'actualité que je vais partager aujourd'hui avec Catherine Colfi-Tortora, thérapeute psychocorporelle et praticienne en somatic experiencing. En VF, ça donne expérience somatique. On en parle tout à l'heure. Pour l'instant, à vous la parole, Karine.
Donc juste pour vous raconter au détour de mon petit coup de gueule, l'histoire de la perception de l'obésité. D'accord, c'est-à-dire comment les personnes en situation d'obésité sont perçues, ou plus exactement ont pu être perçu dans notre histoire, d'accord. Vous savez que ça n'a pas toujours été identique et ça a beaucoup évolué. Au début, donc quand je dis au début, c'était à la préhistoire, les femmes qui avaient des rondeurs étaient plutôt représentatrices d'une bonne santé parce qu'il fallait qu'elles aient de la force, etc., etc. Et puis, petit à petit dans le temps, quand on est arrivé au Moyen-Âge, au 15e siècle, au 16e siècle, y a eu un culte du corps équilibré, voire du corps mince, qui a commencé à apparaître.
Ça, c'est les magazines.
Alors, oui, au 15e siècle, je ne sais pas si c'était les magazines. Mais toujours est-il qu'il y avait déjà ce culte de la santé. Et effectivement, vous avez raison, ça n'a eu de cesse que de progresser, cette histoire-là. Et même déjà au 17e siècle, on a retrouvé des écrits qui déjà émettaient des critiques fortes quant aux personnes en situation d'obésité. D'accord ? Et il y a même eu des époques où on mettait en lien le potentiel embonpoint d'une personne, une femme ou homme d'ailleurs, avec possiblement ses compétences intellectuelles.
Ah oui, carrément.
En tous les cas, c'est dès le 19e siècle qu'on a vu apparaître des régimes restrictifs, ça existait déjà à cette époque-là. Et puis des outils comme le pèse-personne, ça n'a l'air de rien, mais c'était quand même déjà une forme de contrôle, ou bien des fameux outils de mesure, comme par exemple a pu l'être, et l'est toujours d'ailleurs, l'IMC, l'indice de masse corporelle. Donc vous voyez, une histoire du poids, en fait, qui a toujours été en tous les cas mis en avant, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Et puis d'après mes lectures et les renseignements que je peux avoir, on sait aujourd'hui que plus on a eu au fil du temps des injonctions à demander aux gens de perdre du poids, de faire attention à la santé, et malheureusement plus les chiffres de l'obésité augmentent. D'accord, donc si vous regardez les chiffres en France par exemple aujourd'hui sur les gens qui sont en situation de surpoids ou d'obésité, le chiffre reste stable. Mais par contre, à l'intérieur, les situations à personnes d'obésité, ça augmente, tandis que le surpoids baisse. D'accord ? Donc, vous voyez, finalement, on pourrait se demander si ces injonctions, le culte de la minceur que vous évoquiez au travers des magazines, de la télé, etc., si finalement c'est pas contre-productif en amenant aux gens qui regardent ou qui voient, même s'ils n'ont pas envie de regarder, qui voient tout ça, de la culpabilité, ça déclenche, on le sait aujourd'hui, certains troubles du comportement alimentaire. C'est là un petit peu mon coup de gueule,
d'accord.
Et oui, parce que effectivement, essayons peut-être de voir les choses un petit peu différemment et de lutter contre ce qu'on appelle cette grossophobie.
Vous aviez fait une chronique sur la grossophobie il y a quelques années maintenant.
Ouais. D'accord, si vous me le dites, vous avez plus de mémoire que moi.
Oui.
Effectivement, ce grossophobie, ça a été inventé par une association qui s'appelle Allegro Fortissimo, et qui lutte vraiment sur ce genre de choses. Et ce mot est même rentré dans le dictionnaire, finalement, en 2019. Vous voyez ? Donc, c'est dire si, on commence à en parler.
C'est Laetitia Casta qui a fait bouger un peu les lignes du côté de la mode, des magazines, arriver avec des rondeurs. Il y a eu un petit travail, quand même, d'imagination. De ce côté-là, quand même.
Alors, ça progresse, vous avez raison. On a de plus en plus
de gens...
Ça
remonte à Laetitia Casta,
oui,
c'est sûr que...
C'est vrai. On a de plus en plus de gens, qui prennent la parole, et des gens de notoriété publique. Donc ça, effectivement, ça fait du bien. Je pourrais citer, par exemple, Josiane Palasco. Je pourrais citer aussi Lola Dubini, que les youtubeurs, les gens qui regardent YouTube connaissent bien. On pourrait citer aussi, comment s'appelle-t-elle, Iseult. Vous savez, cette jeune femme noire qui s'était présentée à chanter avec une tenue en tulle, qui montrait vraiment ses formes, et qui pourtant a été ambassadrice internationale par L'Oréal Paris. Donc oui, effectivement, aujourd'hui il y a des films, il y a des livres, donc bon voilà, ça progresse, mais malgré tout, il y a quand même encore des petites choses qui peuvent être surprenantes. J'étais tombée par exemple sur un article de presse où l'article vraiment mettait en scène ce monsieur de 300 kilos qui avait dû avoir des porte-charges pour le sortir de chez lui et l'emmener à l'hôpital, et c'était mis en avant comme un roman noir, j'ai envie de dire. Et voilà, c'est vrai que les journalistes, je pense, ont aussi leur bon mot à dire, pour le coup, pour ne pas en alimenter. Vous avez vu, et j'en suis sûre, David, pendant le confinement, plein de petites choses passées sur Facebook ou autre, hein, où voilà, avant le confinement, on était comme si, et puis à la plage l'été prochain, on aura pris effectivement 30 cm de tour de taille. Il y a eu plein de petites de taille comme ça, ben il faut imaginer que si on est dans cette situation, ben effectivement, ça peut amener de la douleur aux personnes qui le vivent, etc. Donc, voilà, c'était mon petit coup de gueule. C'est pour essayer de comprendre que, ben non, ces gens ne sont pas responsables de leur obésité, que c'est une maladie chronique déclarée comme telle par l'OMS d'ailleurs. Donc, voyons, voilà, essayons d'être un petit peu tolérants et de regarder ces personnes-là d'un autre œil et puis les considérer ben, comme vous et moi.
Et vous pouvez taper du poing sur la table pour terminer votre chronique. Allez-y, parce que voilà,
c'est hommage à tous les patients.
Voilà, histoire de la perception de l'obésité, c'est l'intitulé de votre intervention aujourd'hui, Karine. Intervention que l'on retrouve sous peu sur le site cfmradio.fr. La suite du programme, après un peu de musique en studio, Catherine Colfi-Tortora, thérapeute psychocorporelle et praticienne en somatic experiencing. C'est la suite du programme. Merci Karine, belle journée.
À la semaine
prochaine.
CFM Villefranche, le mag.